A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Génération Podcast.
Génération Podcast.
Génération Podcast.
Génération
Podcast.
Génération.
Génération Podcast.
Podcast.
Génération Podcast.
Generation Podcast.
Après une carrière dans le consulting de l'image des marques, Laurent Stock se retrouve, comme la plupart d'entre nous, confiné en 2020. Son activité d'indépendant est mise à l'arrêt et Laurent décide alors de laisser place à une envie qui le titille depuis longtemps, qu'il a découverte en écoutant Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie, et il se lance dans un podcast quotidien pendant le confinement. Il y prend énormément de plaisir. Quelques mois plus tard, alors que les déplacements peuvent reprendre et que son activité de consultant aussi, Laurent réalise qu'en fait il n'est pas prêt à lâcher sa nouvelle passion. Et bien plus encore. Après quelques conversations avec ceux qui deviendront ses tout premiers clients, il décide avec un ami ingénieur du son de réinventer la distribution des podcasts de marque et créer Natif. Aujourd'hui, Laurent nous raconte cette histoire. Ah oui, au fait, moi c'est Anne-Fleur Andrely et vous écoutez Génération Podcast. Si tu arrives là au Paris Podcast Festival et que tu dois te présenter à un groupe de gens qui travaillent dans l'audio ou en tout cas qui ont un certain attrait pour l'audio, comment est-ce que tu te présenterais, Laurent ?
Alors écoute, si je devais me présenter devant des personnes présentes au Paris Podcast Festival, je commencerai par dire que je m'appelle donc Laurent Stock, j'ai 47 ans, ça fait une bonne vingtaine d'années que je travaille dans l'univers de la communication, que j'aime ça profondément. Que j'aime l'entreprise et que globalement, je suis marié, j'ai deux enfants. Je suis originaire du Nord depuis une vingtaine d'années. Enfin, du moins, j'habite dans le Nord, pardon, depuis une vingtaine d'années. Je suis originaire de la région parisienne. Mais ça y est, je suis Lillois, il y a prescription depuis 20 ans.
Adopté.
Lillois adopté, voilà.
Et t'es hyper corporate parce que j'avais vu la bonnette de micro, mais t'as aussi le t-shirt.
Écoute, chez nous, on a t-shirt, casquette, doudoune, pull, bonnette et ça s'arrête là.
Tu vois, si t'étais une boîte de Marseille, t'aurais pas la doudoune déjà, on est d'accord.
Sans manche, sans manche.
Ah, pardon,
mais on l'a aussi. Excuse. Non, mais tu fais bien. Alors ça c'est chouette. Moi, je suis un fan de la marque. Je crois beaucoup à la puissance de la marque.
Et joli le.
Ouais, c'est gentil. Mmh. C'est Ludovic Tran, qui est un freelance parisien qui nous l'a fait. Je trouve que les marques, ça peut être un peu parfois un peu fake, mais si tu fais si tu mets plein de valeurs sincères dans ta marque, je trouve que ça se ressent, et vis-à-vis des équipes, et ben en fait tu sens finalement une sorte de fierté à porter la marque. Moi, j'oblige personne à mettre le t-shirt là, de machin. En fait, ils sont contents de l'avoir, ils sont ouh, c'est cool quoi, tu vois. Nous, on est 5 chez nous et ils sont régulièrement, parfois on a le même pull, on a l'air un peu ridicule, mais c'est, on fait communauté et ça c'est plutôt cool quoi.
On va revenir effectivement à ce que tu as créé pendant, dès le début en fait, des confinements de 2020. Mais j'aimerais bien revenir un tout petit peu pour pouvoir poser un peu de contexte sur ta vie d'avant. Qu'est-ce que tu faisais en fait avant tout ça ? Qu'est-ce que tu faisais avant mars 2020 ?
C'est très simple. Avant mars 2020, j'étais donc entrepreneur. J'avais une société, donc j'étais consultant en transformation digitale et marketing digital. Et donc, je fréquentais le monde de l'entreprise, avec des entreprises qui avaient des problématiques majeures sur comment embarquer les commerciaux principalement à se transformer d'un point de vue digital dans leur process de vente principalement. Et donc voilà, moi j'ai un parcours qui m'a amené à travailler depuis une vingtaine d'années dans des médias. Donc j'ai travaillé pour un groupe de presse qui s'appelle le groupe Rossel, où j'ai fait pas mal de choses et entre autres... les trois dernières années, donc de 2013 à 2016, j'étais le patron d'une agence événementielle et donc on faisait pas mal d'événements. Et le point culminant de l'événement que j'ai réalisé, c'est en 2016 dans le cadre de la Coupe d'Europe de foot qui se déroule en France et donc à Lille également. Et les villes sont obligées d'accueillir les supporters à travers des fan zones. Et donc je prends en main ce sujet-là en disant, mais si un groupe comme le groupe Rossel n'est pas capable d'organiser cela, alors on est capable de rien. Et donc du coup, Je me lance dans l'aventure pour aller conquérir le marché et on décroche la fan zone de Lille en 2016. C'est une expérience unique avec des moments de grande solitude, de grande peur, des grandes joies. Enfin,
ouais, l'événementiel, toutes les émotions
sont fou. Ouais, fois 1000, 350 000 personnes qui sont venues sur 25 jours, une fan zone que j'ai dû fermer, des conditions qui à l'époque étaient au cœur de l'attentat, enfin des attentats. Mmh. Donc, je te raconte pas l'état dans lequel j'ai terminé. Et puis, j'ai décidé finalement d'arrêter de me mentir parce que ça faisait à peu près 10 ans que je voulais créer ma boîte. Et j'avais toujours des bonnes excuses, valables, hein, en vrai, hein, une maison, des enfants, tout ça. Mais en vrai, je ne voulais pas me mentir à moi-même. Et donc, j'ai décidé de quitter le groupe pour créer ma fameuse première société en conseil, hein, assez facile finalement à développer. Et puis, au bout de 3 ans, finalement, moi, je trouve que le Covid était... C'était une chance, je ne sais pas si on peut dire ça, enfin je me comprends hein, dans l'univers de la transition professionnelle où j'avais acheté du matériel en fait, pour faire des podcasts. Je me suis lancé, j'ai passé le fait de me dire en vrai qu'est-ce que vont penser les gens, tu vois, le syndrome de l'imposteur en fait, voilà, il était là. Et puis j'y suis allé naïvement en créant une première chaîne qui s'appelait « Si c'était mieux après ». 30 minutes tous les jours vers des gens de la région Hauts-de-France essentiellement. Je me suis fait plaisir. Puis ça a bien marché. Et puis c'est comme ça que le déclencheur s'est fait et que j'ai basculé chez Natif.
Ok, on va y arriver. Donc du coup, annonce du confinement en mars 2020. Tu ne peux pas aller sur le terrain pour rencontrer tes clients. Et donc, tu décides d'inventer finalement ton occupation on ne savait pas d'ailleurs combien de jours ça allait durer à l'époque. Hein. Donc au final, ça a duré, tu as fait 40 épisodes. Tu lances donc le podcast dont tu viens de nous parler. Tu commences en fait à t'interroger avec tes invités sur voilà, le monde d'après. En fait, le monde d'après ce cataclysme, en tout cas ce chamboulement total de nos vies, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. La démarche, elle est extrêmement naïve, vraiment. J'ai envie de... Alors, elle est extrêmement naïve et puis elle est aussi comment je vais occuper mon temps, comment je vais aussi émerger sur les réseaux sociaux principalement parce que c'était le seul moyen de pouvoir prendre la parole. Et donc, en créant un rendez-vous qui apporte du sens, en fait, tout simplement, aux échanges qu'on peut avoir avec des gens qu'on voyait avant, qu'on ne voit plus maintenant et qui ont des choses à dire. Donc, c'était assez intéressant, finalement, d'aller voir à la fois des entrepreneurs en vraie difficulté. Quand on est une agence événementielle et que ton activité fait reset du jour au lendemain, c'est compliqué. Comment tu gères ça? Comment tu abordes l'après? Mais en même temps, d'aller voir des entrepreneurs qui sont dans le cœur de l'action. Je pense plus particulièrement à un chef cuistot de la région qui globalement, lui, a pris l'initiative d'aller livrer des paniers repas auprès des hôpitaux. Donc, c'était hyper riche de voir finalement comment, pendant cette période anxiogène, on arrivait à se démerder et à se réinventer finalement pendant ces 45 jours. Quoi. Ça, c'était riche d'enseignements.
Ouais. Et alors, tout ça, ça t'a quand même pas mal inspiré parce que réouverture des portes, vous avez le droit de sortir. Moi, je dis vous parce que j'étais pas en France.
Ouais.
et là, en fait... tu retournes à ton boulot, mais finalement, ce que tu as découvert pendant le confinement, tu n'es pas complètement prêt à le lâcher, quoi, c'est ça ?
Ouais, en vrai, j'ai des super clients qui me disent « t'inquiète Laurent, ça va le faire », etc. etc. Donc,
t'as reprise d'activité, tu veux dire ?
Voilà, ouais, la reprise d'activité. Donc, libération, entre guillemets, le 11 mai, où on peut sortir de chez nous et reprendre nos activités de tous les jours. Mmh. Donc, je refréquente mes clients qui me font confiance, mais au fond de moi, je me dis « zut, ce que j'ai fait pendant 45 jours ». Bah, c'était quand même bien et vraiment, tu vois, c'est un marqueur de ma vie professionnelle, clairement. Et je me dis, bah, en fait, là, tu t'es révélé, mon gars, et ça t'a plu ce que t'as fait. Et je pense que t'as apporté en plus, auprès de personnes qui te témoignent, un truc vraiment sympa. Donc, au fur et à mesure, le cheminement se fait et je me trouve un peu emmerdé avec ce format quand même qui est « si c'était mieux après », parce que je vois que les choses quand même durent un peu. Et je me dis, bon, ok, comment je fais pour transformer ce format finalement en un format qui irait plutôt à la rencontre des entreprises, puisque c'est ça que j'aime. J'aime le monde de l'entreprise. Et donc, je transforme ce podcast en Learning Expedition. Mais là encore, on est sur une notion de side project, quoi. Enfin, je me dis, bah, ok.
Ce sera ton hobby pour. Voilà. Quoi.
Voilà. Un hobby qui prend du temps quand même, parce que quand tu fais un épisode par semaine, voilà. Mais c'est un hobby, mais c'est aussi un bon moyen de faire un peu d'inbound marketing. Donc y a aussi cette notion-là.
En tu disant, veux définir peut-être le inbound marketing ? Je suis pas sûr que tout le monde soit familier.
Ouais, la capacité à apporter finalement du contenu de qualité, j'espère, auprès de sa communauté, auprès d'une population qui souvent se trouve sur les réseaux sociaux, le digital, et d'avoir comme ça en fait une forme d'attractivité quant à un besoin émergent de quelqu'un qui vient du coup toquer à ta porte et te dire ce que tu as fait, ça nous plaît. Et c'est exactement comme ça que finalement que Natif est né, puisque deux clients sont venus à moi en me disant bah écoute, on aime bien ce que tu fais, est-ce que tu voudrais pas réaliser pour nous nos chaînes de podcast ? Ce à quoi je dis bah, carrément, on y va. Ouais, ok. C'était quelque chose d'inimaginable qui s'est réalisé. Et finalement, c'est vraiment le bon exemple de l'inbound marketing à proprement dit, quoi. Et c'est comme ça que l'aventure commence.
À ce moment-là, tu as ton activité, tu avais réussi à la relancer ou, enfin, je veux dire, je comprends que tu avais toujours dans un coin de ta tête que tu aimerais bien quand même en faire plus, mais tu avais réussi à la relancer et du coup, tu l'as mise de côté ou comment ça s'est passé ?
En vrai, j'ai mise assez rapidement de côté en me projetant quand même sur le projet qui me faisait vraiment vibrer. Donc, quelques missions qui se terminaient, quelques missions qui rentraient de manière assez automatique. Mais j'ai arrêté en fait la prospection. J'ai arrêté de prospecter, j'ai arrêté de solliciter en fait des entreprises. J'avais plus envie. Et ce que j'avais envie, c'était véritablement de d'écrire une histoire autour de l'audio. Mais il faut savoir quand même que comment m'est venue cette idée, parce que j'avais acheté du matériel avant même d'être en confinement. J'ai dû avoir le nez creux. Figure-toi que moi, j'habite Lille, donc dans le nord de la France. Et on fait, avec Audrey, avec mon épouse, on fait Lille-Amsterdam en voiture. C'est à peu près 3 heures. Et à l'époque, j'entends évidemment parler du format podcast et je tombe sur l'un des podcasteurs, en tout cas que j'écoute assez régulièrement, qui est connu dans le monde du podcast, qui est Mathieu Stéphanie, avec le patron
de Feed. Avec des podcasts qui durent à peu près le temps de ta route.
Tu vois ? Exactement. Donc, ça tombait super bien.
Ouais.
Et avec Anthony Bourbon. Vrai que la première expérience de son podcast avec Anthony Bourbon, c'est une régalade. Quoi. Ouais. En fait, pendant trois heures, tu te dis... Et là, je me dis, en fait, c'est ça que je veux faire sur mon territoire des Hauts-de-France, parce que des histoires, on en a plein à raconter, parce que des personnalités, il y en a plein, et parce que ça me plaît. Quoi. Voilà. Et donc... Pendant ces 3 heures, je te promets que vraiment, j'ai pas vu le temps passer déjà d'une part. On est arrivé à Amsterdam, je regardais la ville, mais j'étais en mode, ça mobilise mon attention. On est rentré, on a écouté un deuxième podcast. Bon. Mais voilà comment vient l'idée. Et finalement, je me suis dit, je vais acheter le matos. Le matériel, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas utilisé parce que les excuses sont faites pour s'en servir, mais pas forcément le temps à ce moment-là. Le confinement est arrivé et c'était vraiment le moment où ça a été la période idéale, si tu veux, pour passer du temps à préparer si c'était mieux après.
Natif, du coup, né un peu finalement aussi de ces conversations après le confinement, de cet inbound marketing que tu n'avais peut-être pas osé espérer, mais en tout cas qui arrive, qui généralement prend beaucoup de temps en plus à se mettre en place, donc c'est super. Mais Natif, c'est aussi pas une aventure seule. Alors, il y a toi, il y a tes clients, mais il y a aussi un certain Thomas.
Il y a un Thomas Rouvillain. En fait, je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. lors de ma première expérience, du coup, ma première activité, mm-hmm. je forme des néo-entrepreneurs à des techniques, je dirais, de commercialisation qui empruntent le digital. Et Thomas fait partie de la bande. Et donc, on se connaît comme ça, peut-être 2 ans et demi, 3 ans avant. Et puis, on garde contact de temps en temps, on s'appelle. Et puis, ce premier confinement arrive. Mon deuxième épisode avec Ondine Prévoto, avocate, qui nous fait un topo sur les baux commerciaux, parce que tu imagines bien quels sont les éléments à prendre en compte quand on a un bail commercial. Bon, bref, donc je l'interview. Et il s'avère qu'après l'enregistrement, on serait cru dans une cathédrale, quoi. Enfin, le truc, au secours. La qualité sonore, vraiment pas bonne du tout. Et là, je me dis, c'est pas possible, je peux pas diffuser ça. Ah, mon Dieu, au secours, voilà. Donc, allô Thomas, tu te rappelles des bons souvenirs ? Écoute, j'ai un problème, est-ce que tu veux pas venir m'aider ? Parce que là, en vrai, c'est compliqué, j'ai un... Bon. Il me dit, bah, écoute, oui, avec plaisir, envoie-moi tes fichiers, je vais voir ce que je peux faire. Et puis il revient vers moi, il me dit, écoute, en vrai, je peux rien faire parce que là, pour le coup, c'est vraiment, c'est pas bon, quoi. Voilà, c'est vraiment pas bon. Et donc, bah, du coup, bah, tant pis, je diffuse l'épisode numéro 2 comme ça. Et puis, bah, voilà, le temps se passe, les jours se passent, les semaines se passent. Et c'est quand ces fameux deux premiers clients me contactent que là, je me dis, ça rigole pas, il faut vraiment travailler quelque chose de quali. Et donc, je rappelle Thomas en lui disant, écoute, Thomas, là, j'ai besoin de toi sur ces sujets-là. Et donc, d'un prestataire à un autre, il m'envoie un devis. Je lui dis, t'imagines pas, c'est pas possible, ça va pas le faire. Bref, on va arriver sur un épisode à 4000 euros. Enfin, c'est pas jouable, quoi.
Ouais. Donc, tu te fixais quoi comme limite de budget? Parce qu'avant d'en avoir fait, c'est pas facile, justement.
Ouais, c'est les pas facile. Ouais. Clairement. Bah, en vrai, pour avoir un peu étudié le sujet, on était plutôt, tu vois, aux alentours de 1500 euros l'épisode. On a visé à peu près juste. Voilà, donc c'était OK. Mais si tu veux, entre mes 1500. Ces 1000 euros, les frais annexes et compagnie, tu arrivais à 4000 euros. Enfin, c'était juste improbable. Et c'est comme ça qu'on a discuté en se disant, mais en fait, il y a un truc à faire, il y a un sujet à travailler. On a commencé petit à petit à créer une offre en commun. Et de cette offre en commun, on s'est dit, bah, en fait, en vrai, on va créer une société, quoi. On va créer une société qui va produire des podcasts pour les entreprises et on va répondre aux enjeux de communication des entreprises pour une population interne et externe, tu vois. Donc c'est on prend le marché et on affine au fur et à mesure quelle est notre spécialité et quel est l'angle dans lequel on veut aller s'attarder pour développer Natif, qui au départ s'appelle Natif Podcast Maker.
Maker.
Au départ, ouais, Natif Podcast Maker, et puis ensuite on retire Maker, Natif Podcast, et puis après on retire podcast, parce qu'en fait on ne veut pas s'enfermer essentiellement dans le format podcast, mais plus généralement sur l'expérience audio, et donc le natif avec le point arrive à ce moment-là, quoi.
Oui, c'est vrai que tu as un point après natif. Alors donc du coup, toi, tu arrives en fait avec ton expertise de la culture de la marque, finalement. Oui. Thomas, lui, c'est l'expert audio. Vous avez des premiers clients, des grands noms en plus, qui commencent à venir vers vous. Et Natif, en fait, donc, tu vas nous le définir plus précisément et peut-être, j'allais dire, en layman's term, de manière grand public. Mais c'est quoi? C'est une plateforme audio dédiée à la communication interne audio, donc des entreprises, mais aussi comme un studio podcast pour entreprise, non?
Alors c'est toute la particularité et la difficulté en même temps. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu démarres une aventure comme la nôtre, en vrai, on a démarré par la création de contenu, et puis le temps de développer une technologie où on avait bien senti qu'il y avait un trou dans la raquette au cœur des entreprises, eh ben, il s'est passé quasiment un an et demi, quoi. Enfin, tu vois, donc... Et du coup, comme on est, je crois, des communicants, les gens nous ont associés forcément à la création de podcasts pour les entreprises, ce qui était très bien, ce qui a permis de générer du revenu et de financer, d'autofinancer le développement de l'application, entre autres, et de recruter des collaborateurs au sein de Natif. Mais on est une entreprise une jeune start-up qui est en train de se transformer. Et mon Dieu, que c'est dur de se transformer. C'est-à-dire que même pour une jeune entreprise comme la nôtre, passer d'une entreprise de contenu à une entreprise tech,
ouais.
En vrai, c'est chaud, quoi.
C'est pas les mêmes compétences,
c'est pas totalement les mêmes discours. T'as l'empreinte digitale qui est déjà là, qui fait que globalement, quand tu mets Natif Audio, bah, tu tombes sur l'ancien logo et tu te dis, mon Dieu, tu vois. Donc, c'est comment t'arrives au fur et à mesure à travailler à ce que ta marque Natif point soit identifiée en tant que telle, sans avoir, pas la pollution, mais les autres marques qui étaient les marques, ouais, du début et qui créaient en fait parfois un peu...
Ouais, mais qui créent l'histoire finalement.
Mais qui créent l'histoire.
De ce que tu as créé. Alors du coup, pourquoi est-ce que c'est important pour une entreprise finalement de communiquer à l'audio, tu vois, et pourquoi est-ce que Natif est devenu une plateforme tech, en fait, enfin, tu vois, je veux bien que tu m'expliques, en fait, votre démarche sur... j'imagine qu'il y a une histoire du type d'information qui est communiquée en interne par les entreprises, mais pas que. Il y a aussi... en fait, c'est hyper précieux d'avoir du temps d'attention de tous tes salariés. Personne ne va aller regarder toutes les vidéos YouTube de ton entreprise. Je ne sais pas si tu peux m'expliquer un petit peu.
En fait, on a écouté nos clients. On a commencé par là. Et on s'est dit, ah, il y a un trou dans la raquette quand même, parce que c'est pas toi que je vais apprendre que les podcasts, je dirais, grand public et les hébergeurs type Ocha, Acast et autres, ont la particularité de faciliter la mise en ligne sur les plateformes de streaming.
Public, du coup.
Et t'as beau faire des playlists privées, en vrai, t'as pas une expérience dédiée à l'audio dans l'entreprise. Donc on s'est dit, ok, ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est qu'effectivement, tu le citais tout à l'heure, c'était inespéré. Hein, on travaille avec une belle entreprise du CAC 40 qui s'appelle Schneider, qui nous confie plein de choses. C'est très cool. Et qui, globalement, nous dit sur les premières rencontres, bah, en fait, livrez-moi un MP et puis on va le mettre sur notre intranet. Et, voilà. Et là, on s'est arrivé avec Thomas en se disant, mais non, c'est pas jouable. C'est pas comme ça qu'ils vont avoir le maximum d'écoute et qu'on va rentrer l'audio comme un canal de communication qui rentre dans les habitudes. Donc ça, c'était déjà l'élément déterminant qui nous a amené à dire « Ok, il y a de la place pour créer une application ou une solution dédiée à l'audio dans l'entreprise. » Et donc, Natif répond à ça, en fait. Répond au fait de pouvoir faciliter l'enregistrement d'une actualité audio, tu vois, on pourrait prendre les vocaux, on voit de plus en plus de gens qui empruntent les vocaux pour s'adresser à leur communauté. Eh bien, Natif, c'est la capacité en tout cas à enregistrer directement depuis son téléphone soit un podcast, soit un vocal, une actualité vocale, et de la diffuser auprès de ses collaborateurs. Donc la diffuser, j'ai même envie de dire auprès de sa communauté, puisqu'on aime bien dire qu'on participe à transformer l'entreprise en communauté. Et donc, d'adosser à ça des outils de communication dédiés. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir diffuser à la bonne personne au bon moment, c'est-à-dire à la fois sur l'application Natif, qui structure toute ton actualité audio chaude, quelque part, et tous tes podcasts qui ont un autre objectif, qui est plutôt celui d'inspirer et de former les collaborateurs. Donc, on diffuse sur la plateforme Natif, hein, sur l'application. On a aussi une version web pour celles et ceux qui ne voudraient pas emprunter le téléphone pour des milliards de raisons. Et puis, on pousse aussi à pousser nos players, hein, qui vont venir s'interfacer avec un Slack, avec un Teams, avec, bref, des outils qu'utilise l'entreprise d'ores et déjà. Et l'objectif, c'est vraiment d'optimiser le message audio auprès de ces différents supports.
Pour l'expérience utilisateur, en fait.
Enfin, pour l'expérience utilisateur.
Vous mettez vraiment dans les pompes de celui qui doit écouter, qui travaille et qui...
Carrément.
Et qui, ok.
Et donc, l'audio, pourquoi ? Alors, je ne vais pas t'inventer... Enfin, j'imagine que tu sais... Le média de la mobilité, de l'authenticité, de la facilité dans la création, dans les...
Mais coûts, l'authenticité, tu en as en entreprise ?
Ah ouais.
Enfin, ça paraît méchant comme question, mais c'est une vraie question, puisque... C'est pas les mêmes enjeux que quand tu racontes une histoire, un récit de vie, pas forcément les entreprises, quoi.
L'authenticité, moi, j'interprète surtout dans l'énergie que tu peux apporter à un message. Tu portes un message. J'espère que dans les propos que je tiens, tu entends peut-être l'énergie que j'ai envie de te transmettre. Mon propos est authentique. Il n'est pas fake, quoi. Donc, je te parlerai de la même manière si tu étais... à côté de moi ou si on prenait une bière ensemble, que sais-je. Donc, les propos tenus par les entreprises quand il y a des actualités audio par l'intermédiaire de la voix, évidemment, c'est aussi une habitude à prendre, déjà, d'une part. Mais globalement, quand c'est la voix et qu'il n'y a pas de montage, eh ben, c'est hyper authentique, quoi.
Ouais. C'est cool.
Donc ça, c'est pas mal. Et puis, tu as des entreprises qui, par contre, ont besoin d'avoir... l'encapsulage, je dirais, d'une actualité. C'est-à-dire que,
donc de la production, quoi.
Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, tu vois, une prise de parole du dirigeant, une communication de crise, une célébration de victoire, finalement, sur Natif, tu peux l'enregistrer, le diffuser auprès de ta communauté, de tes collaborateurs, hein, et les avertir par une notification qui va leur dire « Hey, il y a une nouvelle actualité pour toi, vas-y, va l'écouter. » Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on s'adresse quand même à des populations qui sont assez éclatées. Tu vois, dans le domaine bancaire.
Des grands groupes
Des grands groupes, on s'adresse plutôt à grandes entreprises ETI, mais tu vois, on a rentré l'Institut Pasteur de Lille. Bon, bah, globalement, c'est 300 personnes. Donc, c'est raisonnable. Pour autant, quand on parle de grands groupes industriels, on est sur 20 000 personnes. Donc, en fait, l'intérêt, c'est que ça peut s'adresser à tout type de volume. changera simplement après la structure des chaînes d'actualité et des chaînes de podcast, parce qu'on considère que pour nous, une chaîne d'actu, c'est une actualité chaude, et une chaîne de podcast, c'est une chaîne qui a pour vocation d'inspirer et de former tes équipes.
Ah, super intéressant. Et comment est-ce que, du coup, tu parles de très grands groupes, comment est-ce que tu prends, ou est-ce que vous arrivez à prendre en compte la problématique de la langue ?
La problématique de la langue, il y a deux choses. Il y a la traduction des principaux titres, je dirais, sur l'application. Donc là, c'est français-anglais. On est en train de développer d'autres langues, mais on s'est contenté français-anglais dans un premier temps. Après, nous, on bosse avec une boîte qui s'appelle Le Safre, qui est le leader international de la levure, dont la langue business, la langue interne, dès lors où on doit s'adresser à tout le monde, est l'anglais. Voilà. Donc là, ça pose plus de sujets. Par contre, quand tu as des régions...
C'est la source qui prennent en charge.
Exactement. Après, quand tu as des régions autres que... Du moins, si tu vas en Italie ou en Allemagne, globalement, avec la voix, c'est pas problématique d'emprunter sa langue native, pour le coup. Chose juste à faire évoluer chez nous, c'est les titres qui sont en français ou en anglais qu'on devra adapter dans la langue natale.
Et est-ce que tu sens, est-ce que vous avez, des datas là-dessus sur... tu parles justement de groupes très éclatés, un peu partout dans le monde, avec une langue commune de travail, mais qui n'est pas forcément la langue native de tout le monde. Est-ce qu'en fait, on réplique ce qu'on voit, avec les podcasts natifs qui ne sont pas forcément internes à des entreprises, qui finalement la création de proximité, la fédération, d'une communauté autour de valeurs, autour de... Enfin, en fait, même un truc tout con, t'entends ton boss, tu vis en Italie, t'entends ton boss français qui te parle en anglais, il a un accent clairement, mais... Ça le rend presque attachant, ce que je veux dire.
Mais c'est ce que tu viens... tu me posais la question tout à l'heure sur la notion d'authenticité. Eh bien, cet exemple que tu prends là, ce côté « j'ai un accent franglais », eh bien, t'es authentique et ça humanise, si tu veux, le propos. Et il y a un truc qui est assez flagrant, c'est que en écrit... Tu vois, nous, on bosse pas mal sur, finalement, des problématiques, des enjeux de newsletter. Des entreprises qui nous disent, on a un taux de clic qui est vraiment proche du néant. Enfin, c'est au secours, on passe un temps fou à écrire et les gens ne lisent pas. Comment peut-on faire avec l'audio ? Et en plus de ça, l'intérêt, c'est qu'un point d'exclamation ne peut pas être interprété d'une différente manière à l'oral. Parce qu'en vrai, un point d'exclamation à l'écrit, tu peux l'interpréter de différentes manières.
Selon les cultures, en plus, ce n'est pas du tout interprété de la même manière.
Tu vois ? Alors qu'à l'oral, tu vas entendre un timbre, tu vas entendre une énergie, tu vas entendre une gravité, tu vas entendre plein de choses qui font que, globalement, ta carte mentale prend le dessus et tu te projettes finalement dans les propos tenus par là ou les personnes, quoi. Et c'est ça aussi toute la différence qui est vraiment appréciée et qui est appréciable, c'est que tu crées des rapports de simplicité finalement entre les gens parce que l'audio le permet en fonction du message que tu fais passer, évidemment.
Là, en fait, tu facilites ces communications. Vous ne faites plus du tout de production ou est-ce que vous en faites encore ? Est-ce que tu peux me parler du type, justement, de production que vous réalisez ? J'imagine que ça a des ambitions différentes, en fait, en fonction des entreprises.
T'as raison. On continue de produire parce qu'on est en avant-vente, je dirais, facturée. L'avant-vente facturée, quelque part, c'est de dire on répond à la problématique que l'entreprise veut combler, c'est-à-dire produire du contenu audio. Tu vois. Et derrière, elle se dit, mais comment je fais pour finalement exploiter au mieux, amplifier au mieux, optimiser au mieux sa découvrabilité, son taux d'écoute et par conséquent son taux de considération. Et en vrai, la création de contenu est un bon cheval de Troie pour aller ensuite positionner l'application dans un environnement de l'entreprise. Alors pourquoi je te dis ça ? Parce que le jour où le marché de l'audio dans l'entreprise, par l'intermédiaire du format podcast, donc du format asynchrone, sera mûr, je n'aurai certainement pas le même discours que celui que je te tiens aujourd'hui. Aujourd'hui, les entreprises, avec le Covid, ont découvert le mot podcast, se sont dit « Ah, il y a des trucs à faire », hyper plébiscité par les collaborateurs, par la Gen Z qui pousse aussi à ce que les formats de communication internes changent. Et donc, finalement, c'est une forme de petite révolution dans les entreprises à se dire, OK, on nous demande en tout cas de communiquer de manière différente. Comment je fais, tu vois? Et après coup, c'est comment je fais aussi pour pouvoir en créer véritablement une expérience auprès des collaborateurs. Donc, on crée du contenu, mais tout de suite derrière se pose la question de comment on diffuse et comment on optimise tout ça. Quoi.
Ouais. Et alors justement, ça amène, tu vois, à un point que je trouve aussi intéressant. Tu parles de taux d'écoute. Les podcasts qui ne sont pas forcément en entreprise se disent « Oh là là, j'ai envie qu'on m'écoute ». Oui, on a envie d'être écouté, mais ce n'est pas vraiment le nombre d'écoutes qui prime, en fait, finalement, comme métrique de succès. C'est quoi la métrique du succès de tes entreprises, là ?
Tu as quand même le nombre d'écoutes. C'est-à-dire que sur 300 collaborateurs, si tu as 30 collaborateurs qui ont écouté, c'est pas un succès, enfin, ouais. Clairement.
Ouais.
L'idée, c'est pas non plus d'alourdir la démarche en faisant sa newsletter, son intranet, son vocal, sa vidéo. Donc, c'est pas, l'audio va pas supprimer l'ensemble des médias déjà utilisés par l'entreprise, mais en tout cas, va permettre d'augmenter la découvrabilité. Donc, pour nous, un bon taux d'écoute, c'est quand tu es à peu près à 60% du format délivré écouté par les collaborateurs. Et là, on peut estimer que c'est
donc
plutôt,
que tu as 60% du, enfin que qu'en gros ils écoutent au moins 60% du podcast.
Ah non, que 60% des personnes des personnes ayant reçu l'actu puissent l'écouter.
Que tu touches 60% de tes collaborateurs.
Exactement. Okay. Exactement. Et ça c'est un vrai indicateur en tout cas qui nous permet de dire OK, c'est plutôt pas mal. Et j'ai envie de te dire, on en est qu'au début parce qu'en vrai, on n'a pas suffisamment de recul pour te donner une dimension, enfin une projection quand tu as des scores qui seraient meilleurs ou qui se tasseraient, tu vois. Ouais. C'est le produit récent.
Et tu vas me dire, je suis un peu pinailleuse, mais comment est-ce que tu les comptes, les écoutes? Parce qu'il y a toujours tout un grand débat sur comment tu comptes les écoutes. Est-ce que c'est quelqu'un justement qui clique sur play? Est-ce que c'est quelqu'un qui écoute au moins une minute, au moins la moitié? Comment est-ce que c'est compté chez vous?
C'est une bonne question. C'est un vrai sujet chez nous. En fait, on a deux types de formats. On a un format actu chaude et qui, globalement, t'encapsule sur 30 secondes ton actu. Et là, globalement, c'est 3 secondes. Donc, on considère qu'au bout de 3 secondes, c'est une écoute. Après, on peut donner en fait un taux d'écoute, mais 3 secondes. Et sur un podcast, à partir du moment où tu es à partir de 5 minutes, tu vois, bah, on reprend les codes. Quoi. On est sur une minute d'écoute égale une écoute, tout simplement. Ouais. Ça nous paraît important de ne pas se limiter à cliquer, à dire « Ok, c'est écouté ». Tout comme on est sur de l'écoute unique. C'est un choix qu'on fera peut-être évoluer, mais on n'est pas sur « J'ai écouté 10 fois, il y a 10 écoutes ». C'est « J'ai écouté une fois, c'est une écoute unique ». Donc ça, c'est un...
Du coup, tu es lié quoi à l'adresse IP du téléphone?
Alors, on est lié à l'adresse mail du téléphone.
Ah, des identifiants. Donc, si tu partages tes identifiants,
exactement.
Ça compte pas.
Parce que pour rentrer chez Natif, tu peux télécharger l'application Natif, hein, je t'encourage à le faire, mais tu ne pourras pas rentrer dans l'application parce que
ça ne servira
à rien. Si tu n'es pas dans l'organisation...
Je te remercie pour tes conseils.
Tu peux mettre une note 5 étoiles sans même avoir vu le truc, ça me fera plaisir, mais, mais voilà.
Ah, on voit qu'il y a des podcasteurs avant tout.
Mais globalement, si tu télécharges, tu as deux manières d'accéder en fait à Natif. Soit tu as un SSO, donc une authentification unique rattachée à un Okta, un Gmail, soit tu as un lien magique. Donc globalement, tu mets ton mail, tu reçois un mail sur ta boîte mail et tu peux y accéder. Donc
comme sur Slack.
Voilà. Donc on facilite en fait l'accès tout en sécurisant et tout en garantissant finalement à nos entreprises. On a une ambition d'aller au-delà de la France. On veut aussi garantir une notion de sécurité à nos entreprises en ayant privilégié, c'est Microsoft évidemment, mais enfin notre cloud, mais en tout cas hébergé en France. Bon, donc c'est des éléments qui sont assez importants pour les entreprises, vraiment. Et quand je te parle d'ambition d'aller en fait à travers l'Europe ou à travers le monde, c'est que finalement c'est à travers nos clients qu'on va y aller. C'est-à-dire que un Le Saffre, un Schneider Electric ou des entreprises industrielles ne se contentent pas du territoire français, mais vont partout dans le monde et doivent communiquer en fait. Entre différents pays, sur des actualités générales parfois qui sont nécessaires à faire passer.
Alors donc du coup, c'est quoi le futur de Natif? Donc vous en êtes quand même au début de l'histoire, ça commence un peu sur les chapeaux de roue, c'est génial. Tu dis une internationalisation à moyen terme, je ne sais pas, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux partager?
Déjà, je pense que c'est bien d'être le premier au village. C'est-à-dire qu'on va déjà bien travailler sur le territoire français en, en prenant en compte aussi des appels d'offres pour lesquels on répond au niveau global, mais en vrai, ça, c'est assez vertigineux, hein, clairement. Donc l'idée, c'est quand même de positionner le produit pour qu'on soit vraiment référent, en tout cas sur la solution audio en entreprise à travers l'application native, ça c'est clé. Deuxième point, c'est de renforcer les équipes, forcément, pour développer encore un peu plus le produit, l'offre commerciale, aller sur le territoire européen, et puis après, j'ai envie de te dire, la suite, on la verra, mais on a envie de raconter une belle histoire, on a envie de suivre aussi un peu les... Tu vois, alors, Maxime Piquette au chat, en fait, on était voisins, puisque Maxime et nos bureaux, il a déménagé, mais ses anciens bureaux, je les vois à 50 mètres. Et c'est un beau succès, tu vois. Donc, si on arrive, en tout cas...
Ils viennent d'arriver aux US.
Ouais, si on arrive à emprunter ce succès-là dans le monde de l'entreprise, c'est canon. D'autant plus qu'on n'est pas concurrent. Donc, c'est génial. On a répondu à un dossier en commun. Donc, ça démontre aussi qu'il y a une vraie complémentarité, finalement, sur le sujet grand public et sur le sujet entreprise, quoi.
Tu me disais qu'un des premiers podcasts que tu as écouté qui a fait un peu tilt pour toi, c'était Génération Do It Yourself, yes, de Mathieu Stéphanie, l'épisode avec Anthony Bourbon. C'est le premier podcast que tu as écouté vraiment ?
Ouais, c'est le premier podcast que j'ai écouté.
Et tu l'écoutes toujours ?
Ah ouais, je suis un fidèle.
Je suis un fidèle.
Quand je fais Paris-Lille et je refais l'aller-retour, je me fais un épisode en deux fois. Ouais. Non, je suis un fidèle. Ouais. Il le sait certainement pas, mais l'aventure natif, il y est pour quelque chose.
C'est vrai ?
Je te promets. Il y est pour quelque chose parce qu'il est le déclencheur finalement d'un truc où je me dis, mais en vrai, je vais faire la même chose dans la région des Hauts-de-France avec un style un peu différent, proche parfois, mais
proche à toi.
Mm-hmm. Donc, tu vois, la petite graine, elle est là et c'est grâce à son podcast et à Anthony Bourbon, entre autres, l'histoire qu'il racontait, que j'ai lancé en fait l'aventure podcast. Quoi. Ouais, c'est cool.
Eh ben, bravo Mathieu.
Ouais. Tu nous écoutes.
C'est quoi ton dernier binge podcast ?
Alors, c'est un peu auto-centré en vrai, parce qu'on écoute les podcasts qu'on réalise pour nos clients.
Tout le monde, tu vois. Normal.
Tu vas me dire, tu faillotes. Le dernier, c'est le tien. Je te promets.
Oui, parce que Pierre, tu préparais avant qu'on se
avec
parle.
Avec Pierre Orlac, c'était intéressant, tu vois, de voir un peu.
Ah oui, ça fait longtemps celui-là.
Ouais, donc, je suis allé chercher dans ta liste quelque chose qui pourrait forcément
qui
me concerner, m'intéresser. Ce que j'écoute, c'est aussi avec Carlos Diaz, Silicon Carnet.
Ouais.
J'aime beaucoup.
Qui est en Californie, hein, c'est ça ?
Oui. Son podcast s'appelle Silicon Carnet. C'est un podcast sur les nouvelles technologies, les nouveaux modes de consommation, de communication. C'est un peu déjanté, c'est sur un ton détendu, c'est vraiment sympa. Et puis, il a cette particularité de bien connaître le domaine, de créer en fait une ambiance qui est plutôt sympa. Donc, on est sur un format talk. Moi, que j'aime bien. Et puis, si, j'allais oublier, Laurent Brouat. Moi, c'est quelqu'un... Alors, Laurent Brouat, pour la petite histoire, il a aussi, lui, participé quelque part à l'aventure native, puisque pendant le confinement, Laurent, il faisait le tour. Alors, Laurent Brouat, il a créé un podcast qui s'appelle « Il était une fois l'entrepreneur » et il nous raconte la vie d'entrepreneur. C'est très bien réalisé, enfin, il y a du sound design à tout va, enfin, c'est vraiment très chouette. Et Laurent, en fait, pendant le confinement, fait le tour de quelques podcasts néo-podcasteurs, en tout cas moi j'étais à ce moment-là néo-podcasteur, et prendre l'info, mais en toute sympathie, parce qu'il sent bien qu'il y a aussi un sujet. Et on a commencé à discuter avec Laurent, et depuis on a gardé le contact.
Vous êtes lancé à peu près en même temps.
Ouais, à peu près en même temps. Et je dois dire qu'il fait un travail de dingue. Pareil, Laurent, si tu m'écoutes, je te salue. Et bravo pour ce que tu fais, parce qu'il fait des réalisations qui sont vraiment très sympas. Et donc ça, je pense que j'ai écouté l'ensemble de ces podcasts. Voilà, je suis,
wow.
Ouais, après, ils sont un peu courts.
Ce n'est pas une déclaration d'amour podcastique, je ne m'y connais.
Non, je t'assure. Mais je lui ai dit, par contre, t'es chiant, tu les fais en deux fois. Ils sont trop courts, du coup. Mais il a ses raisons.
Ah, ça ne marche pas sur le péril.
Ouais, c'est ça, ça ne marche pas. T'en fais plusieurs, quoi, du coup. Donc,
ça a été quoi un de tes derniers coups de cœur, je ne sais pas, de 2022 là. On se parle, c'est la fin de l'année. Un de tes coups de cœur, que ce soit une série ou un one shot, qu'est-ce que je sais pas, l'épisode où tu t'es dit waouh, genre tu l'as envoyé à tes potes, tes collègues, ta famille.
Je vais revenir sur Mathieu Stéphanie. Hein. Moi, il y a des trucs. Il a réalisé un podcast avec Alexia Laroche-Joubert. c'était la patronne de la Star Academy. Waouh, enfin, tu vois, c'est vraiment top. Je crois que j'ai un top 3 ou un top 4 de ses invités. Il a fait aussi un podcast. Alors attends, je triche un peu, je regarde sur mon téléphone. David Brami, pareil. David Brami, un expert de la vente, du point de vente. Jean-Marc Jancovici, pareil, tu vois. Donc j'aime bien, en fait, j'aime bien ce format long. J'aime bien, on peut s'installer, on peut l'écouter en plusieurs fois.
Très intime, finalement.
Ouais, j'aime bien ça. Je sais que beaucoup disent, voilà, oh c'est trop long. Bah, moi, j'aime bien. C'est le truc qui...
C'est clairement un parti pris. Et c'est de plus en plus long à mesure que les années passent.
Ouais, c'est ça. Ouais, des fois, tu dis, oh, tu vas dépasser les 4 heures.
Mais en fait, je l'ai beaucoup écouté. Là, j'ai un peu moins de temps, donc je l'écoute un petit peu moins. Mais finalement, tu sais, il y a souvent une métrique où on dit, oh là là, si t'as écouté, moins de 60%, moins 50% d'un podcast, c'est que t'es pas bon auditeur, enfin, tu vois, que tu reviendras pas. Ben, je suis pas d'accord, tu vois, sur des podcasts comme celui de Mathieu Stéphanie, ça m'est arrivé d'en écouter plein à la moitié, ouais. En fait, et après, en fait, je suis passée à autre chose, donc je suis jamais revenue dessus, mais ça veut pas dire que j'ai pas apprécié finalement cette première moitié.
Je suis complètement d'accord. J'ai retrouvé un podcast que j'ai écouté pendant les vacances, qui s'appelle X. Mm-hmm.
Ah ouais, de Agathe.
C'est trop drôle. Ouais. Mais c'est un truc de dingue. C'est donc Brain Content. Et qui c'est qui, je crois que
c'est Mythique
qui fait ça. C'est bien foutu. Et en vrai, j'ai écouté ça avec ma femme, pareil. C'est une histoire d'amour un peu, tu vois. C'est un peu gnangnan parfois, mais...
Au début, c'était que des histoires d'ex, vraiment. Et maintenant, c'est les histoires d'amour.
Ouais, comment ils se sont rencontrés.
Mais les premiers épisodes, quand j'avais commencé à écouter, c'était vraiment des histoires. C'était mes ex, comment est-ce qu'ils m'ont forgé. Ouais. Et ça a un peu évolué. Et c'est...
C'est chouette.
Est-ce que, Laurent, il y a un conseil que tu aimerais bien, je sais pas, te chuchoter à l'oreille. Chuchoter à l'oreille du Laurent de mars 2020, par exemple.
Oh.
Avec le recul, c'est toujours plus facile.
Écoute, je crois qu'en fait, je me suis chuchoté déjà ce que je vais te dire, enfin ce que je me suis chuchoté. Je me suis chuchoté en mars 2020. Vas-y, quoi. T'en as rien à faire de ce que vont penser, en fait, les gens. Regarde, concentre-toi sur les gens qui trouvent que tu fais du bon travail, du bon boulot, que t'apportes de la valeur à tes propos. Et ne fais pas un focus sur les gens qui se trouveront toujours une critique parce que la vie est ainsi faite, c'est comme ça, et tu pourras pas, toi, changer les choses. Donc, globalement, fais le truc qui t'anime. Ton syndrome de l'imposteur, ok, c'est bon, allez, passe à autre chose, t'y vas, saute dans le grand bain. Et en vrai, c'est en ça où je te disais tout à l'heure, ça a été une vraie révélation. Alors, bon, je suis pas avare de parole, de tout ça. Enfin, mais malgré tout, tu vois, on a toujours cette capacité à se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Tout est beau, tout va bien, machin. Enfin, on est tous confrontés à parfois nos peurs, nos craintes, tout ça. Et moi, le premier, clairement. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, mais en vrai, qu'est-ce que t'as à perdre, quoi. Donc, vas-y, lance ton podcast. Et c'est ce que je me suis dit. Et c'est ce que j'essaye de dire aux... Ouais, et ça, c'est cool.
Lance ton podcast. En voilà un bon conseil. Si vous aussi, vous lancez vos podcasts, n'hésitez pas à me les envoyer. Je suis toujours à la recherche de nouvelles recommandations podcast. J'envoie d'ailleurs une newsletter, plus ou moins régulièrement le jeudi, dans laquelle je vous partage mes listes d'écoute. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un grand merci à Laurent Stock pour ce chouette moment passé ensemble. J'espère que ça vous aura plu à vous aussi et peut-être que ça vous aura donné des idées pour le futur. Dans quelques jours à peine, ce sera le 2e anniversaire en live de Génération Podcast. Si c'est un événement auquel vous aimeriez participer, c'est ouvert à tous mais les places sont assez limitées, alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message à annefleur.podcast@gmail.com. annefleur.podcast@gmail.com. Encore merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle semaine. La semaine prochaine, c'est Solène qui vous retrouve pour son coup de cœur du mois de décembre. Ensuite, on prendra quelques jours de vacances et on se retrouvera début janvier avec la rediffusion de cet anniversaire en live. En attendant, je vous souhaite de découvrir plein de podcasts et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.